L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire enseigné par l'un de nos pasteurs. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, c'est un matin spécial. Comme vous voyez, le pasteur, il n'est pas ici, mais la présence de Dieu, par exemple. Laissez-moi vous dire. Et gloire au Seigneur pour cela. Nous avons un homme de Dieu parmi nous avec un message de Dieu. Puis Dieu veut encore nous bénir. Il veut encore bénir votre vie. Il veut encore bénir votre âme. Il veut encore vous donner que vous avez un surplus à donner. Et gloire au Seigneur pour cela. Amen. Et sans plus tarder, je vais donner toute la place à notre frère pasteur Jérémie Saudril. Ce matin, gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.
Merci, mon béni.
Bonjour à tous. Hein? Si vous ne m'avez pas déjà vu, à genoux en train d'adorer Jésus. David, comme vous savez, c'est un homme de louange. Hein? Il avait compris quelque chose. Que l'orgueil nous empêche toujours de nous approcher de Dieu, mais que l'humilité précède la gloire. Et je vais prier un moment ce matin, avant de partager cette parole. Seigneur, je te remercie encore parce que ta parole, elle est puissante. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et elle vient séparer ce qui est de toi dans nos vies et ce qui n'est pas de toi. Je te remercie, Saint-Esprit, pour ta présence. Je te demande de prendre le contrôle de cette réunion, de prendre le contrôle de ma bouche, de prendre le contrôle de chaque personne ici présente. Merci parce que tu as un message qui est clair pour ton peuple et que tu vas faire des choses extraordinaires. Je prie encore pour des cœurs ouverts à ta parole, ouverts à la libération. Amen. Ok. Comme vous avez vu, le thème de ce message, c'est « Je me souviens ». Et le pasteur a écrit que c'était un message prophétique pour le Québec. Je sais que les gens aiment beaucoup les prophéties. Mais malheureusement, beaucoup ont reçu des prophéties et n'y sont jamais rentrés. Et c'est toujours de notre responsabilité d'entrer dans ce que Dieu nous appelle à faire et à dire. Le 25 août 2003, j'étais en France à cette époque-là. Et j'ai été appelé au ministère il y a plusieurs années. Et il y a 8 ans à peu près, j'étais en train de lire la Bible. Et le Seigneur m'a parlé par rapport à mon appel au ministère au travers du livre d'Ézéchiel, où on va pouvoir aller tous ensemble. Dans Ézéchiel au chapitre 2 et 3, et ça, j'ai reçu cet appel, c'était pas le 25 août, c'était le 25 février 2003. Et c'est en fait l'appel d'Ézéchiel. Et Dieu va parler à Ézéchiel au chapitre 2, au verset 1. Il lui dit, il me dit, fils d'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'écoutais celui qui me parlait. Il me dit, fils d'homme, c'est moi qui t'envoie vers les Israélites, vers les nations en révolte, qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont été criminels à mon égard jusqu'à ce jour-ci. Je vais aller directement au verset 9. Il est dit, je regardais, voici qu'une main était tendue vers moi, tenant un livre en rouleau. Il le déploya en dedans et en dehors. Il y était écrit, lamentation, plainte, gémissement. Au verset 5 du chapitre 3. Car ce n'est pas vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible, que tu es envoyé, c'est vers la maison d'Israël. Ce n'est pas vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible, dont tu ne comprends pas les discours. Au contraire, si je t'envoyais vers ceux-là, eux, ils t'écouteraient. Quand j'ai reçu cet appel, je me disais, j'étais déjà en France, et souvent je me posais la question, j'avais 20 ans à cette époque, et je me disais, mais si Dieu m'appelle chez un peuple qui est mon peuple, qui a la même langue que moi, mais qui n'est pas en France, je ne sais pas où Dieu va m'appeler. Et souvent je me posais la question, et j'avais jamais imaginé que Dieu m'enverrait au Québec, bien plus tard. Et on s'est installé ici, comme vous le savez, le 24 juin, l'an dernier. Donc c'est la fête nationale du Québec. Et quelques jours après, le Seigneur m'a rappelé cet appel que j'ai eu d'Ézéchiel. Et au verset 11, j'ai été surpris quand j'ai lu « Va trouver les déportés, les fils de ton peuple, tu leur parleras. Rends-toi vers ceux qui ont été transportés, une autre traduction dit, vers les enfants de ton peuple, tu leur parleras. » Et comme vous savez, les Québécois sont les enfants de mon peuple. En 1534, je vais vous faire un petit peu d'histoire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Québec. Ne croyez pas autant qu'un Français vous apprenne votre histoire. Mais en 1534, Jacques Cartier a pris possession du territoire de Gaspé. Et 110 ans après cette possession, il y a eu lieu donc, ce qu'on a appelé la Nouvelle-France. Il y avait 500 personnes qui étaient là. C'est ce qui était la Nouvelle-France à cette époque-là. Mais ça ne se multipliait pas comme ils voulaient. Donc en fait, ils ont amené dans cette Nouvelle-France 750 jeunes filles. Des orphelines pour la plupart. Et 10 ans plus tard, en fait, ces jeunes filles, ces 750 jeunes filles, ont fait tripler la population de la Nouvelle-France. Et en fait, ces jeunes filles sont devenues les mères du Québec. Les mères du Québec, et certainement parmi vous, j'ai lu qu'il y avait à peu près 2/3 de gens qui sont au Québec, il y avait des gènes de ces mères-là, c'est prouvé scientifiquement, c'était des orphelines. Des femmes qui n'avaient pas de père, qui n'avaient pas de mère, qui avaient été parfois abandonnées, ou rejetées, ou dont les parents étaient morts. Et ces femmes-là, en fait, ont amené certainement avec elles des esprits de rejet. Un esprit d'abandon au Québec. En 1759, c'est le siège du Québec, et en fait, 4 ans plus tard, le Canada est cédé à la Grande-Bretagne. Et à partir de ce moment-là, comme vous le savez peut-être, les relations entre les Québécois et les Français sont devenues un peu spéciales. Et même des dizaines d'années plus tard, il y a encore ce genre de relation entre les Français et les Québécois qui est un peu spéciale. Et les Québécois ont en fait créé une expression, peut-être vous avez entendu parler, des maudits Français. Et quand en fait la France a abandonné le Québec, il y a eu vraiment une blessure dans le peuple québécois, le peuple de cette Nouvelle-France, et des blessures qui ont été profondes, en fait, on les sent encore aujourd'hui. Et la France a dit à cette époque-là, la France peut être heureuse sans le Québec. Ils ont préféré choisir les Antilles, et les Antilles coûtent très cher à la France aujourd'hui, alors que le Canada s'élargit et prospère. Et en 1883, il y a cet homme qui s'appelle Eugène Étienne Taché, vous avez entendu parler, hein, il a fait graver sur la porte principale de l'hôtel du Parlement à Québec cette devise « Je me souviens ». Donc vous avez tous, si vous avez une voiture, hein, cette phrase qui circule avec vous tous les jours de votre vie. Donc à chaque fois que vous roulez, vous transportez un message qui dit « Je me souviens ». Et en fait, sur cette façade du Parlement, cet homme, il a gravé quelques faits historiques, etc. Il n'a pas laissé de message sur ce qu'il voulait dire, mais certaines personnes ont conclu que c'était simplement un rappel de l'histoire. Et en tout cas, l'histoire du Québec est marquée par ce qui a été vu comme un abandon par les Québécois. Et aujourd'hui, donc, comme je vous dis, les relations sont pas exceptionnelles. Et il y a beaucoup de Québécois qui voient les Français comme des orgueilleux. Et beaucoup de Français qui se moquent des Québécois. Ça, c'est la réalité aujourd'hui, pour beaucoup en tout cas. Et si vous ne l'avez pas remarqué, je peux vous dire que c'est vrai, puisque nous, on l'a tout de suite vu. Et dans Ézéchiel 2, au verset 10, ce verset qu'on a lu tout à l'heure, c'est vraiment un message pour le Québec. Dieu va dire, il écrit, « Il le déploya devant moi, il était écrit en dedans et en dehors. Il y a été écrit « Lamentation ». Plainte, gémissement. Et en fait, ça a été expliqué par lamentation, méditation et devenir. Le peuple du Québec a vécu, en fait, des lamentations. Et en fait, quand on étudie cet appel d'Ézéchiel et qu'on regarde son livre, ces 3 parties, en fait, expliquent les prophéties qui sont dans son livre par rapport à Israël. C'était en fait la déportation, la vie en exil et le retour. Et le Québec a été, en tout cas, ce qu'a été la Nouvelle-France, a été créé par des gens qui avaient été déportés, comme ces Israélites qui avaient été déportés. Et le Québec est certainement un symbole d'Israël. Des gens ont été déportés du Québec et il existe vraiment des blessures sur les descendants des Français. Et beaucoup aujourd'hui sont comme en exil. Le Québec a vécu une déportation, entre guillemets, et aujourd'hui il y a beaucoup de gens parmi les Québécois, parmi vous certainement, qui sont comme en exil. Et en dehors de cette histoire, c'était simplement une introduction, mais il y a beaucoup de gens qui se souviennent de leur passé, qui regardent constamment à leur passé. Et beaucoup de gens qui sont marqués par leur passé. Et finalement, beaucoup de Québécois qui ont des blessures et qui ont l'impression tous les jours de leur vie d'être comme en exil. De ne jamais savoir où ils sont. De ne jamais pouvoir bâtir leur vie comme les gens, on va dire, normaux. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'enfance. Et je crois que Dieu a un message vraiment clair pour vous, c'était très clair en moi. Et il y a beaucoup de gens parmi vous, vous avez des profondes blessures par rapport aux choses que vous avez vécues dans votre enfance. De profondes blessures. Vous savez, les gens peuvent vivre une vie avec des blessures énormes et les cacher tout le long de leur vie. Et en fait, ils n'arrivent jamais à entrer dans ce qu'ils voudraient. Et s'ils sont chrétiens, ils n'arrivent jamais à entrer dans ce que Dieu voudrait d'eux. Parce qu'en fait, ils ont des racines qui sont profondes dans leur cœur et dans leur vie. De blessures qui sont venues à cause de leur enfance. Il y a plusieurs parmi vous, peut-être, vous avez des racines d'amertume. Des blessures profondes, de choses que vous avez vécues pendant votre enfance ou pendant votre jeunesse. Certains parmi vous, vous avez peut-être été abusés. Abusés sexuellement. Abusés physiquement. Abusés moralement. D'autres ont vécu des choses difficiles dans leur jeunesse, des chocs émotionnels terribles, la perte d'un être cher, de quelqu'un que vous aimiez, de quelqu'un que vous appréciez. Une affreuse déception. Certains ont vécu le rejet. Certains ont été abandonnés. Et ça, ça a créé en vous, ou en tout cas en certaines personnes ici, des blessures profondes. Et aujourd'hui, ce que Dieu veut vous dire, c'est que vous n'avez plus besoin de marcher avec ça. Des tas de gens marchent tous les jours de leur vie avec des blessures. Vous pouvez regarder leur vie et vous vous posez certaines questions. Mais pourquoi ils vivent ça? Pourquoi ils vivent ça? Pourquoi ils vivent ça? Et eux-mêmes, parfois, ils ont oublié. Ils ne savent pas pourquoi ils vivent ça. Et parce qu'ils ont laissé des choses en eux qui produisent des fruits pourris. Et vous savez, quand vous vivez un choc émotionnel dans votre vie, ça ouvre souvent la porte à des mauvais esprits. À des esprits méchants. Le diable fait des choses dans la vie des gens pour les blesser, pour ouvrir une porte. Quand le diable blesse quelqu'un, il s'ouvre une porte. Quand une personne est blessée et reste dans cette blessure, c'est une porte dans sa vie pour le diable. Voilà pourquoi encore il y a des chrétiens aujourd'hui, alors que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle, mais il y a des gens aujourd'hui qui vivent avec des blessures profondes, des choses qui sont profondément en vous. Trop de chrétiens restent toute leur vie avec des racines dans leur cœur. Et beaucoup sont comme en exil. Vous avez l'impression de tourner en rond. Vous avez l'impression que rien n'avance. Parfois, vous sentez des oppressions spirituelles. Parfois, vous avez envie de tout arrêter. Parfois, certains, peut-être, vous avez pensé au suicide. Ça vous est peut-être arrivé. Et vous ne réussissez pas votre vie. Et beaucoup de personnes sont comme si elles étaient bloquées constamment. Elles essaient un nouveau travail, elles sont bloquées. Elles essaient une nouvelle relation, elles se sentent bloquées. Elles essaient de déménager, elles sont toujours bloquées. Et donc, quoi que ce soit, vous faites, vous êtes bloquées parce que vous avez laissé des racines en vous. La racine, c'est ce qui va prendre la vie ou la mort. Ce qui va faire vivre un arbre ou qui va le faire mourir. Et vous pouvez amener toutes sortes de sprays sur l'arbre pour qu'ils grandissent vite, même si les racines sont pourries, ça ne marchera pas. Et il y a des gens qui acceptent Jésus-Christ, et spirituellement, tout est devenu nouveau, mais à cause de leur mentalité non renouvelée, ils acceptent des pensées diaboliques, des choses qu'ils pensaient avant, des esprits de rejet, des esprits d'abandon. Et cela crée dans la vie des gens toutes sortes d'échecs. L'échec. Mais Dieu est un Dieu de réussite. Donc il y a vraiment des chocs émotionnels qui ouvrent la porte à des esprits mauvais. Vous savez, avant, sur les plaques d'immatriculation, vous le savez certainement, c'était écrit « La belle province ». Mais la belle province s'est transformée en « Je me souviens ». Et en fait, pour beaucoup de gens, la beauté et la joie de leur vie est devenue un pâle souvenir. On a remplacé ce qui était beau par un souvenir mélancolique, un souvenir étrange. Un souvenir, quand vous pensez aux choses de votre passé, il y a des oppressions qui viennent en vous. Il y a des choses terribles qui essaient de vous lier. Parce que le diable vous amènera toujours à vos échecs passés. Le diable vous amènera toujours avec ce que vous avez pu vivre de terrible, là où vous vous êtes posé des questions sur Dieu et sur l'amour de Dieu. Parce que c'est la volonté du diable, de vous amener dans le passé, de vous amener dans des pensées qui n'amèneront jamais la libération de la part de Dieu. Mais Dieu a une autre volonté. Donc beaucoup se souviennent des chocs qu'ils ont subis dans leur passé. Et ils méditent. Et c'est ça le message d'Ézéchiel. Lamentation, méditation et devenir. Et beaucoup aujourd'hui méditent. Ils ne deviennent pas, ils méditent. Si vous méditez sans cesse, vous ne deviendrez pas. Si vous méditez sans cesse sur vos blessures, vous ne pourrez pas être guéri. Vous avez besoin d'aller plus loin. Vous avez besoin d'être guéri par Christ. Et lamentation, méditation et devenir est un message prophétique pour le Québec et pour les Québécois. Beaucoup trop de gens sont liés par le diable. Beaucoup sont aujourd'hui dans la méditation. Et en fait, ils ont leur cœur comme s'il était en suspens au-dessus d'un ravin. Vous savez, un cœur, c'est fait pour être protégé. Mais beaucoup parmi vous avez comme un cœur qui est toujours suspendu. Suspendu aux aléas de la vie. Et parfois, vous avez comme l'impression que quelqu'un vous presse le cœur. Et cela amène toutes sortes de choses dans les vies. Certains, ils ont des nausées constamment, depuis des années. Ils vomissent, ils ne savent pas pourquoi. Certaines personnes, ils mangent sans s'arrêter. Ils ne savent pas non plus pourquoi. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. D'autres, vous faites des cauchemars. Depuis des années, ça revient parfois. Il y a des saisons qui reviennent et qui font que jamais vous ne pouvez avancer véritablement. Certains, vous êtes liés par la honte et par le rejet, à cause de ce que des gens vous ont dit, à cause de ce que des gens vous ont fait. Certains, ils sont liés par le choc que vous avez pu subir, et ils sont esclaves. Dans Marc, au chapitre 5, vous connaissez cette histoire du possédé de Gadara. Il est dit que Jésus va arriver dans un pays, le pays des Géraséniens, et aussitôt que Jésus débarquait, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent cet homme, il avait eu les fers aux pieds, et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu ses chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Cet homme avait réussi à se défaire de ses chaînes extérieures. Mais à l'intérieur, il était enchaîné, complètement possédé. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de croyants, qui ont réussi à se défaire de certaines chaînes à l'extérieur. Ils ont une maison, ils ont une voiture, ils ont un mari, ils ont une famille, ils ont un enfant, ils ont la nourriture. Mais à l'intérieur, ils sont liés. Ils sont esclaves. Et ce possédé, il déliait ses chaînes. Jour après jour, jusqu'à ce qu'on ne l'embête plus. Mais il était rempli de mauvais esprits. Et finalement, vous savez ce qui s'est passé? Au verset 8, Jésus va dire « Sors de cet homme, esprit impur, et cet homme a été délivré. » Vous connaissez aussi cette histoire de l'enfant lunatique. Ce père qui ne savait pas quoi faire, son fils qui se jetait dans l'eau et dans le feu constamment, à cause de mauvais esprits. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de croyants, ils ne savent même plus ce que c'est un esprit méchant. Ils pensent que c'est fini. Certains pensaient que, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ces esprits sont éternels. Et les esprits méchants qui étaient sur la terre avec Jésus et dans les évangiles, vous les voyez partout. Ce sont des esprits qui sont encore là. Un jour, je chassais un démon d'une personne et le démon commençait à me parler. Et il m'a dit, j'ai déjà tué 2 personnes. Une en Angleterre, un prêtre. Et une autre personne, et je vais tuer cette personne. Et c'est la personne qui parlait, c'était le démon qui parlait. Peut-être ça vous surprend, mais ça ne devrait pas vous surprendre du tout. Parce qu'on voit Jésus et on voit des démons qui parlaient à Jésus. Et en fait, le diable est un menteur. Le diable est quelqu'un qui terrorise, qui amène la peur et les angoisses. Et le diable, en fait, vous amènera toujours quelque chose, un mensonge, et si vous l'acceptez, vous allez croire que c'est vous qui avez amené ce mensonge. Le diable vous dit quelque chose, et si vous acceptez cette chose, vous avez tout de suite l'impression que c'est vous qui pensez ça. Donc si le diable vous dit que vous êtes quelqu'un qui n'arriverait jamais, et que vous l'acceptez, vous pensez que réellement, vous n'arriverez jamais. Parce que vous pensez que c'est ce que vous êtes. Mais c'est un mensonge du diable. Un mensonge diabolique. Le diable est toujours là pour nous tourner vers le bas. Pour nous amener vers le bas. Pour nous amener vers l'échec. Pour nous amener vers le passé. Mais Dieu toujours nous amène au futur. Aux promesses glorieuses qu'il a prévues pour nous. Et il y a beaucoup de chrétiens, ils essaient d'être des bons chrétiens. Mais ils sont dominés par leurs pensées. Ils sont dominés par des oppressions. Et ils essaient et ils n'arrivent jamais. Et ils se souviennent constamment. Il est dit dans Luc 17, 32, Jésus a dit, « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Et dans Genèse 19, il y a cette femme qui était là, vous connaissez l'histoire. Il y avait Lot et sa famille qui étaient à Sodome et Gomorre, dans cette ville terrible, dans cette ville où il se passait des choses horribles. Et en fait, c'était un territoire d'esprits mauvais. Il y avait tout un tas d'esprits mauvais qui étaient là et qui faisaient tout un tas de choses chez les gens et qui amenaient les gens à se détruire eux-mêmes et à faire des choses horribles. Et des anges sont venus pour délivrer Lot et sa famille de ce qui se passait dans leur vie et autour d'eux. Et l'ange a dit à Lot et à sa famille de ne surtout pas regarder en arrière. Mais vous savez ce qui s'est passé? La femme de Lot a regardé alors que la ville commençait à être détruite en arrière. Elle a été transformée en statue de sel. Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec elle. Cette femme a regardé à son passé. Mais ne regarde jamais aux échecs passés. Ne regarde jamais à ton passé, à ce que tu as pu vivre. D'échecs, de traumatismes, des choses terribles qui sont en toi et dont tu n'arrives pas à te délivrer, à te libérer. Et certains, vous avez essayé par vous-même. Certains, vous avez peut-être été voir des psychologues. Vous avez parlé à votre conjoint. Vous avez parlé à une amie de comment je peux sortir de là. Comment je peux sortir de cette situation. Et certains, vous avez commencé à faire des choses et certains péchés à cause de ça, pour essayer de trouver une délivrance. Mais Christ, aujourd'hui même, va vous délivrer. Christ, aujourd'hui même, va libérer plusieurs personnes parmi vous. Si seulement vous croyez, Jésus-Christ va vous délivrer aujourd'hui. Cette femme a été transformée en statue de sel. Donc, ne regardez jamais à ce que le diable a pu faire dans votre vie. Mais, par rapport à ce que le diable vous a fait, le pasteur Olivier Derain m'a appris un principe, et c'est vraiment puissant. Il m'a dit un jour, si le diable me prend saint, je dirais, je ferai 10 fois plus pour Dieu. Si le diable vous a volé quelqu'un que vous aimiez, aimez 10 autres personnes, aimez 10 nouvelles personnes. Si le diable vous a volé un enfant, devenez un père, une mère de plusieurs enfants. Si le diable vous a volé de l'argent, commencez à donner aux gens. Ne rentrez pas dans son jeu. Le diable enlève toujours des choses pour que les gens deviennent radins en amour, en argent, en bonté, en paix. Le diable est un voleur. Le diable est celui qui détruit. Il détruit les vies. Il détruit les gens. Il déteste les gens. Le diable est méchant. Et il fait des choses dans la vie des gens qui amènent des oppressions et toute leur vie reste avec ça. Toute leur vie sont liées par le diable. Et ils disent, je suis pourtant un enfant de Dieu, mais je suis lié. Et ils ne comprennent pas, ils se posent des questions. Ils se disent, mais pourquoi Seigneur? Et tous les jours, il prie. Et les autres prient pour lui. Et il s'avance aux prières. Mais rien ne se passe. Et ils se posent tout un tas de questions sur Dieu. Et sur l'amour de Dieu et sur la volonté de Dieu. Et beaucoup quittent les églises à cause de ça. Beaucoup sont de ceux qui se retirent. Et dans ce cas-là, le diable a gagné. Mais la Bible nous montre que le diable a été vaincu. Il y a plusieurs personnes parmi vous, vous avez des blessures profondes. Profondes. Vous restez avec ça tous les jours de votre vie. Et certains, vous voulez garder ces choses. Et bizarrement, quand quelqu'un a été abusé, il garde ces choses. Et il ne veut pas pardonner. Quand quelqu'un a été abusé sexuellement, cette personne, la plupart du temps, la grande majorité du temps, va développer un esprit terrible, un esprit d'abandon, un esprit de rejet, et ne voudra pas pardonner. Et elle reste avec son esprit tous les jours de sa vie, parce qu'elle ne veut pas pardonner. Il y a des gens qui ont vécu la mort d'un proche, et ils restent avec ça tous les jours de leur vie. Et ils ne veulent pas être délivrés par Jésus-Christ qui a dit « Je vous donnerai ma paix, je vous laisserai ma paix, vous n'êtes pas orphelin. » Est-ce que vous croyez que Jésus vous a laissé orphelin de quelqu'un? Il a dit « Vous ne serez pas des orphelins. Je viens vers vous. Je viens à vous. Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Vous pouvez recevoir la paix de Dieu. » Quel que soit le Sodome et Gomorre dans lequel vous êtes aujourd'hui, quel que soit ce que vous pouvez vivre dans votre vie, des pensées, des choses que vous ne comprenez pas, des choses qui vous empêchent d'être un bon père de famille, quel que soit ce que vous avez pu vivre, Dieu va enlever le déshonneur sur vous aujourd'hui. Non pas à cause de moi, non pas à cause de l'Église de la Victoire du Québec, juste à cause de lui, juste parce qu'il vous aime, juste parce qu'il veut vous prendre dans ses bras. Les hommes ne pourront jamais vous apporter ce que vous voulez. Jamais, parce que l'homme est limité. Et quelqu'un qui peut vous apporter une bénédiction un jour, le lendemain, il peut être à terre lui aussi. Mais Jésus n'est jamais à terre. La Bible dit qu'il a envoyé des anges pour délivrer Lot et sa famille. Mais Dieu n'a pas envoyé des anges pour vous délivrer. Dieu a envoyé son propre fils, Jésus-Christ, pour vous délivrer. Lamentation, méditation, devenir. Vous avez besoin d'entrer dans le devenir de Dieu. La Bible dit que Jésus, le Fils de Dieu, a paru, il est venu, afin de détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ est venu afin de détruire les œuvres du diable dans ta vie. Il ne doit pas avoir de conséquences de ce que le diable a fait dans ta vie. Parce que Christ vient réparer les conséquences. Christ vient guérir les blessures. Quand tu as une blessure, je t'ai dit, tu ouvres la porte au diable. Et si tu veux rester avec cette blessure, si tu ne veux pas la confesser, si tu ne veux pas la déposer une fois pour toutes, au pied de Dieu, tu marcheras tous les jours de ta vie dans l'oppression et dans la dépression. Tu fermeras tes fenêtres et parfois tu mangeras sans t'arrêter. Tu te poseras tout un tas de questions. Tu ne voudras plus que les gens t'appellent. Tu vas te mettre à regarder tout un tas de films, à jouer à toutes sortes de jeux vidéo pour te combler quelque chose. Mais si tu es prêt à donner à Jésus ce dont tu es esclave, ce qui t'a blessé, Jésus-Christ te libère. La Bible dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Emparez-vous de cette parole aujourd'hui. Saisissez-vous-en. Si vous écoutez avec foi, si vous croyez que ce que Dieu dit est vrai, vous allez vivre les conséquences de cette parole. La Bible dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu m'a clairement dit ce message aujourd'hui pour vous. Il y a des gens parmi vous, vous êtes liés. Ne restez pas avec ces choses. N'attendez pas de grandir encore et encore. N'attendez pas un nouveau prédicateur. N'attendez pas quelqu'un de loin. Nous sommes que des vases. Vous êtes un vase que Dieu veut remplir. Et parfois, au fond des vases, il y a des choses terribles. Quand j'étais petit, j'avais fait une bêtise et on m'avait donné un mot, je devais le montrer à mes parents. Et je l'avais caché au fond d'un vase devant chez moi. Et parfois, il y a des choses qui sont là. Et si vous laissez des feuilles pendant longtemps, l'hiver passé, vous y revenez, il y a une odeur qui pue. Ça sent pas bon. Il y a des gens parmi vous, vous avez au fond de vous des choses qui puent. Vous ramenez la bonté de Dieu, vous ramenez des choses, vous amenez des choses dans votre vie et vous ne comprenez pas pourquoi tout va mal quand même. Pourquoi vous êtes oppressé? Mais c'est parce que de l'intérieur, des racines, ça amène des choses dans vos vies. Certains d'entre vous, vous avez eu des mauvais pères de famille qui vous ont abusé, qui se sont moqués de vous, qui constamment vous baissaient la tête. Il y a beaucoup de gens parmi les Québécois qui ont vécu ça. Beaucoup qui avaient des mauvais pères, qui ne vous montraient pas l'exemple, qui vous rabaissaient constamment. Et ça a produit en vous d'être comme eux, de faire comme eux. Et vous n'arrivez pas à développer l'amour. Vous êtes toujours limité. La Bible dit dans Ézéchiel au chapitre 37, à un moment Dieu va amener Ézéchiel dans une vision auprès d'une vallée d'ossements. D'abord, on va aller dans Hébreux. Je peux vous lire dans Hébreux chapitre 2. Et au verset 7. On va lire à partir du verset 6. « Mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. » Ça, c'est la destinée de l'homme. C'est ta destinée. L'homme a été créé pour régner et non pas pour être dominé. L'homme a été créé pour régner sur tout ce que Dieu a fait. Mais beaucoup sont esclaves. Peut-être certains, votre père, vous battait. Peut-être certains, vous aviez des pères ou des parents qui ne parlaient jamais avec vous. Aimer, vous ne savez pas ce que c'est. Consoler quelqu'un, vous ne savez pas ce que c'est. Beaucoup sont limités, en fait, dans leur vie parce qu'ils ont vécu des choses difficiles, parce qu'ils ont eu des mauvais exemples, un mauvais mari. Limités par ce que le diable a fait. Dans Ézéchiel, Dieu va transporter Ézéchiel dans une vision, devant une vallée remplie d'ossements qui étaient secs, des ossements humains. Et Dieu va dire à Ézéchiel, « Fils de l'homme, est-ce que ces os pourront-ils revivre ?» Et Ézéchiel va répondre, « Seigneur éternel, tu le sais. » Beaucoup en vous, vous avez comme des ossements desséchés, des choses qui sont sèches. Il n'y a pas la vie. Jésus-Christ a promis de donner sa vie. Il a promis de donner sa vie. Il a dit, « Je vous donne ma paix. » Il a dit, « Mes brebis entendent ma voix et me connaissent. Et celui qui entre par moi, je lui donnerai la vie, et la vie en abondance. » Si tu ne vis pas la vie aujourd'hui, il y a un problème. C'est que tu es lié quelque part. Mais Jésus va te donner la vie en abondance. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. La Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La Bible dit que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui même, tu es le temple du Saint-Esprit. Celui qui a tout créé par sa parole, celui qui a tout amené à son obéissance, celui qui t'a créé, celui qui a créé cette nation, habite en toi. Le roi de gloire, le Dieu tout-puissant, celui qu'on appelle éternel Dieu, qui n'a ni commencement ni fin, l'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant et trois fois saint, habite en toi. Celui qui a créé des choses avant que tu existes, avant même que rien n'existe, il a ordonné des choses et les choses étaient obligées d'obéir à sa parole, habite en toi. La Bible dit que le Christ, que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, te ressuscitera aussi. Le Saint-Esprit va ressusciter des choses dans ta vie. Le Saint-Esprit va ramener des choses qui étaient mortes à la vie. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, va libérer des gens. Si tu as besoin de délivrance, il est là. Si tu as besoin de libération, il est là. Un cœur orgueilleux insupporte Dieu. Dieu ne peut rien faire avec l'orgueil. Voilà pourquoi il utilise les choses faibles de ce monde. Voilà pourquoi il utilise des moins que rien, des gens sans éducation, des gens qui ont été rejetés et abandonnés, des gens qui ont été abusés et qui n'ont pas fait les grandes écoles. Parce que Dieu veut utiliser des choses faibles pour confondre les fortes. Si tu as été abusé, Dieu veut se servir de toi. Si tu as été abandonné, Dieu veut se servir de toi. Si tu as été maltraité, injurié, Dieu veut se servir de toi. Mais si tu gardes ces choses par orgueil, si tu as peur d'être touché par Dieu pendant que tu es à l'église, il ne pourra rien se passer. Parce que Dieu est un gentleman. Le diable, il viole les gens. Mais Jésus, jamais. Jésus propose. Jésus donne. Jésus avance avec un plateau. Et il te dit, que veux-tu? Cet homme était aveugle et Jésus lui a pourtant dit, que veux-tu? Parce que si cet homme n'avait pas voulu voir, Jésus n'aurait pas fait de miracle. Mais Jésus a besoin que tu dises avec ta bouche ce que tu veux. Si par ton orgueil, tu ne veux jamais être libéré, parce que tu ne veux pas vivre des choses, tu ne veux pas pleurer devant les gens, tu ne veux pas être touché par Dieu, tu ne veux pas te mettre à genoux devant eux, Dieu ne pourra rien faire avec toi. Parce que une chose insupporte Dieu, c'est l'orgueil humain. À partir d'un moment où un serviteur de Dieu s'enorgueillit, c'est la fin pour lui. La Bible dit que l'orgueil précède la chute. Si tu es orgueilleux, c'est la chute obligatoirement. Si par ton orgueil, tu ne veux pas confesser à Dieu ce que tu as pu vivre, des choses qui sont en toi, des choses qui sont dans tes pensées, mais Dieu connaît tes pensées. Tu as besoin de confesser pour être libéré. Tu as besoin de déclarer pour être délivré. Tu ne peux pas marcher, ce n'est pas la volonté de Dieu, que tu marches tous les jours sous le joug de la servitude. Jésus a un cœur pour libérer les gens. C'est le cœur de Dieu depuis la chute de délivrer les gens. Et Jésus n'a pas envoyé des anges pour vous délivrer. Il a envoyé le roi des rois et le seigneur des seigneurs, assis sur un âne, le petit d'une ânesse. Parce que Jésus déteste l'orgueil. Les disciples étaient en train de se poser des questions. Qui sera assis à ta droite? Qui sera assis à ta gauche? Et Jésus a utilisé un âne pour venir à Jérusalem et être reconnu et adoré. Et il a dit, si vous faites taire ces gens, si vous faites taire ces enfants, les pierres crieront. Beaucoup parmi vous, vous avez comme la bouche fermée. Tous les jours de votre vie, vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments. Et dans vos relations, c'est étrange. Dans votre couple, c'est étrange. Parce que le diable ferme la bouche des gens. Le diable amène un esprit de crainte chez les gens. Un esprit de peur. Un esprit d'angoisse. L'angoisse n'est pas pour les enfants de Dieu. La peur n'est pas pour les enfants de Dieu. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de crainte pour être encore dans l'angoisse, encore dans la peur. Tu n'es pas devenu chrétien pour à nouveau être lié, parce que Christ serait mort en vain. Mais Jésus-Christ est mort et son sang a été présenté devant le Père pour ta libération. La Bible montre que les sacrificateurs allaient d'année en année faire des sacrifices pour expier ou couvrir la faute des gens et le péché des gens et les oppressions que pouvaient avoir les gens. Mais la Bible dit que Jésus-Christ lui-même a présenté son propre sang devant Dieu. Et c'est le sang de Jésus-Christ qui te délivre. C'est le sang de Jésus qui te donne l'autorité contre ce que tu vis aujourd'hui. Tu peux te cacher, mais Dieu connaît. Tu peux te cacher, mais Dieu ne pourra rien. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur, de t'ouvrir complètement pour que Dieu te touche. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Il y a beaucoup parmi vous, ils ont dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est Dieu qui lui a dit, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Beaucoup, vous n'avez plus d'espérance. Vous passez votre vie comme ça, comme les gens de ce monde. Les gens de ce monde, leur vie, c'est terrible. C'est terrible. C'est horrible. Si vous pouviez voir comme Dieu voit, et le peu de clarté que Dieu m'a montré par rapport à ce que ces gens vivent, ils vivent leur vie pour rien. Les jours passent, et les semaines passent, et les vacances passent, et l'argent passe, et la maison passe, et la famille passe, et ils perdent les gens, un après l'autre. Pour rien. Pour jouer un petit peu, pour jouir de la vie, pour avoir des relations ici et là. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Des gens vivent toute leur vie, ils travaillent dur, et ça amène toutes sortes de choses à la maison, quand ils rentrent du travail, pour pouvoir acheter une maison. Et ils travaillent dur pour acheter une maison, et à cause de ce travail, eux qui voulaient avoir une belle maison, une belle famille, ce travail les détruit. Ce travail détruit ce qu'ils ont voulu construire eux-mêmes, parce qu'ils veulent construire les choses eux-mêmes. Et beaucoup de chrétiens font ça aujourd'hui. Ils veulent construire leur vie. Moi, je connais ceci. Moi, je ferai cela. Moi, je ferai cela. Tu ne feras rien sans Dieu. Tout ce que tu feras, ce sera l'échec. Jacques Cartier, a vécu une vie d'échec. L'homme qui s'est saisi de cette région, de cette province, de cette nation, est mort dans l'échec. Il était venu pour trouver des diamants. Il n'a rien trouvé. Les gens se sont moqués de lui. Les pères et les mères de cette nation sont des orphelins, des abandonnés, des gens qui n'ont pas réussi. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelqu'un dans votre descendance qui n'a pas réussi. Mais il y a toujours aussi quelqu'un qui a réussi, qui a cru en Dieu. Nous sommes tous héritiers d'Abraham, de cet homme de foi qui ne regardait pas aux choses visibles, mais qui regardait à Dieu. Tu peux être un responsable dans l'Église. Tu peux être quelqu'un de reconnu. Tu peux avoir un super travail. Tu peux avoir réussi financièrement. Et pourtant rester avec des ossements desséchés en toi. Des choses qui t'empêchent d'avancer. Des choses qui te blessent. Dès que quelqu'un te parle mal, t'es blessé. Dès que quelqu'un ne te montre pas ce que tu attendais, t'es blessé. Il y a des racines d'amertume qui se forment en toi. Et tu penses que tous les autres sont méchants. Parce que tu as développé un esprit de rejet. Un esprit qui dit « personne ne m'aime ». Un esprit qui dit « personne ne me comprend ». Un esprit contraire à la vérité. La Bible dit que Jésus te comprend. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous et qu'il a de la compréhension pour celui qui vient à lui. Il a de la compréhension pour l'homme. Il aurait pu rester là-haut et les sacrificateurs auraient pu, d'année en année, couvrir les péchés, mais les gens étaient toujours liés. Mais il est venu présenter son sang devant le Père pour te libérer. Dieu veut utiliser des gens qui sont libres. Parce qu'un aveugle ne peut pas aider un autre aveugle. Dieu veut utiliser des gens libres pour libérer les autres. Pourquoi les églises ne sont pas fortes? Parce que les gens restent constamment avec le poids des choses que les gens leur ont fait vivre. Avec le poids des abus qu'ils ont vécus. Le poids des choses difficiles qu'ils ont vécues. Et les églises n'avancent pas à cause de ça. Parce que les gens ne veulent pas être libérés. Et ils ne peuvent pas libérer les autres. Quand tu vas dans un cimetière, est-ce que tu ressors avec de la joie? Des gens viennent dans les églises, des églises de cimetière, avec des pasteurs qui amènent les gens dans l'aveuglement, qui sont aveuglés eux-mêmes, qui regardent au passé. Si tu as été abandonné, ne regarde pas au passé. Si tu as été maltraité, ne regarde pas ce que tu as subi. Si tu as été violé, ne regarde pas ça, mais regarde à Christ. La Bible dit que Christ a été élevé. Élevé à la perfection. Et quand tu le regardes, la perfection vient sur toi. Quand tu le regardes, sa grâce vient t'aider, te soutenir, plus que te soulager, te guérir profondément, construire ta vie. Si tu regardes aux gens, si tu regardes à ton passé, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Tu as besoin de te souvenir de quelqu'un. Et la Bible dit, souviens-toi de Jésus-Christ. C'est une parole puissante qui devrait être gravée. Partout au Québec. Le Québec a oublié Jésus. Le Québec a oublié celui qui a été percé. Ces 750 femmes qui sont les mères du Québec, quand elles sont arrivées ici, elles étaient dans une sorte de couvent avec des femmes qui s'occupaient d'elles jusqu'à ce qu'une par une elles soient données. Cette nation s'est bâtie avec certaines personnes qui avaient la foi. Mais avec d'autres qui n'avaient aucune foi et qui utilisaient le nom de Jésus pour leur propre fin. Il y a des gens aujourd'hui qui sont à l'église, mais qui utilisent Jésus pour leur propre fin, pour leur propre réussite, pour leur argent, pour leur prospérité. Jésus-Christ est venu pour libérer les gens. Jésus-Christ n'est pas venu pour que tu jouisses de ta vie seulement. Il est venu pour que tu délivres des autres. Parce qu'un homme esclave ne peut pas aider un autre homme esclave. Des gens sont venus sur des bateaux d'esclaves, morts par la faim, par des conditions de vie terribles. Un esclave ne peut pas aider un esclave. Le Québec a oublié Jésus-Christ. Et le Québec se souvient du passé. Se souvient des échecs passés. Mais à chaque fois que vous regardez une plaque d'immatriculation, à chaque fois que vous entendez cette devise, je me souviens, Rappelez-vous que la parole de Dieu pour vous, c'est « Souviens-toi de Jésus-Christ ». La Bible dit « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Parce que si tu te souviens de ton passé, de tes échecs, de ce que le diable a pu te faire, tu ne pourras pas avancer. Mais Dieu dit « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Parce que Christ en moi, Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. L'Église n'a pas vécu ce que Dieu veut vivre. L'Église n'a pas vécu les plans de Dieu. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas encore l'Église, comme Dieu veut qu'elle soit. Ta vie n'est pas encore ce que Dieu veut. La Bible dit que Dieu, le Dieu incroyablement sage, incroyablement riche, incroyablement bon, a écrit de toute éternité des plans. Il a préparé des choses pour toi, un avenir et une espérance. Mais beaucoup n'ont plus d'espérance. Dieu a écrit de toute éternité un Dieu intelligent, un Dieu beaucoup plus intelligent que l'homme, qui construit sa propre vie et qui arrive pourtant à faire des choses étonnantes. Dieu a construit, a écrit des choses, un chemin dans lequel tu dois aller. Un chemin de miracles, un chemin de guérison, un chemin de signes et de prodiges. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Tu dois chasser des démons. Tu dois chasser des démons. La Bible dit que Lot, le juste, il tourmentait son âme, jour après jour, à cause des péchés nombreux qu'il voyait dans sa ville. Mais les chrétiens aujourd'hui ne tourmentent plus leur âme. Ils jouissent de la vie. Ils jouissent de leur vie, tout simplement. Mais Dieu ne t'a pas créé pour que tu jouisses de la vie ici présent, seulement. Ça, c'est ce qui va avec. C'est des produits dérivés. Mais Jésus a dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Les gens se demandent, mais pourquoi Dieu ne m'utilise pas? Pourquoi aujourd'hui l'Église est comme ça? Mais parce qu'ils cherchent tout ce qui vous sera donné par-dessus, au lieu de chercher le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu, et Dieu vous donnera tout. Dieu vous donnera avec abondance. Ne cherchez pas la richesse et la gloire, cherchez celui qui la donne. Cherchez Jésus-Christ. Les gens cherchent la gloire, les gens cherchent l'argent. Peu importe l'argent. Tu dois crucifier tes envies. Tu dois crucifier tes désirs. Tu dois crucifier ta propre volonté. Tu dois crucifier tes propres plans pour réussir ta vie. Les gens ont pensé que la vraie réussite, c'était faire tout ce dont ils avaient besoin, tout ce dont ils avaient envie. Mais la vraie réussite ne se trouve qu'en Jésus-Christ. La vraie liberté ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Les gens font toutes sortes de choses pour être libres, alors que la liberté, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que Christ vous a affranchi pour la liberté. Christ ne t'a pas affranchi pour que tu deviennes esclave à nouveau. Mais Christ t'a affranchi pour la liberté, pour la délivrance, pour que sa gloire paraisse sur toi. Le Dieu intelligent a quelque chose de bon pour toi. Il a écrit quelque chose pour toi. Quelque chose d'extraordinaire qui dépasse ton intelligence. N'essaie pas d'imaginer Dieu. N'essaie pas de penser comme Dieu. N'essaie pas de réfléchir Dieu. Parce que Dieu ne se réfléchit pas. Dieu se reçoit. Dieu s'accepte. Dieu a écrit des choses. Et tellement de gens sont dans la volonté permissive de Dieu. Tellement de gens n'accomplissent pas ce que Dieu veut. Dieu veut utiliser toi tel que tu es. Tel que tu es pour libérer les gens. Parce qu'il n'y viendra plus le faire lui-même. Il l'a déjà fait. Tu as besoin. Et tu dois dire aux gens qu'ils doivent être libres en Jésus-Christ. Tu dois dire aux gens que quelqu'un est venu pour eux. Quand tu vois quelqu'un de malade, tu ne dois pas te taire. Quand tu vois quelqu'un à ton travail de déprimé, tu ne dois pas te taire. Quand tu vois le poids de culpabilité, le poids d'infériorité, de rejet sur la vie des gens, tu ne dois pas te taire. Parce que Dieu t'a appelé à parler. Dieu t'a appelé à construire la vie des gens. Dieu n'enverra plus des anges. La Bible dit qu'il fait de nous, ses serviteurs, une flamme de feu. Une flamme puissante entre ses mains. Jésus-Christ, aujourd'hui, te délivre. Te délivre de tes chaînes. Te délivre de ton esprit d'abandon, de rejet, d'infériorité, que tu transportes avec toi tous les jours de ta vie. Si le pasteur Jean peut venir. Dieu, la Bible dit qu'il est en colère contre l'injustice dans ta vie. Dieu est en colère contre l'injustice dans ta vie. Croyez pas que Dieu se plaît à voir ses enfants et à même voir les gens du monde subir les choses de la vie. La Bible dit, et c'est Dieu qui parle pour toi. Restez concentrés, s'il vous plaît. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu. Je me suis contenu. Mais je crierai comme une femme en travail. Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme et je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voici ce que je ferai, je ne les abandonnerai point. Dieu ne t'abandonne point. Si tu es aveugle, Dieu va te montrer un chemin. Dieu va ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir, pour que tu puisses comprendre, que tu puisses recevoir ce qu'il a pour toi, en réserve pour toi. Lève-toi, brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici que les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. S'il y a des ténèbres dans ta vie, Dieu va les transformer en lumière. Lève-toi, brille, parce que Dieu veut t'utiliser. Il est dit dans Colossiens, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il y avait des choses qui étaient écrites contre toi, mais Jésus l'a cloué à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Les dominations qui essaient de venir sur le monde, qui essaient même de venir sur les enfants de Dieu, Jésus-Christ les a dépouillées. Les a dépouillées. Mais si tu ne réalises pas qu'ils ont été dépouillés, tu vas les accepter, tu vas les recevoir. Si quelqu'un ne sait pas que quelqu'un a payé pour lui, il paiera de lui-même. Mais tu n'as pas besoin de payer. Tu n'as pas besoin de payer pour ce que les gens t'ont fait. Tu n'as pas besoin de payer pour ce que les gens n'ont pas fait. Christ a déjà payé pour toi. Il te rend la vie. Il te libère. Le diable n'a plus aucune autorité sur toi. Il n'a plus aucune autorité. Si le diable vient te faire des sales coups, tu dois lui dire, va-t'en, dehors, au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est puissant pour prendre la vie d'un enfant qui a été abusé et faire de cet enfant un homme fait. Un homme qui va voir la gloire de Dieu. Un homme qui va triompher. Un homme qui va être un libérateur. Ce que le diable a pu te faire, Dieu va le transformer en bien. Dieu va le transformer en bien pour ta gloire et pour la gloire des hommes. Parce que Dieu veut glorifier les hommes. Oui, Dieu veut donner sa gloire aux gens. Pas pour qu'ils s'enorgueillissent, mais pour qu'eux-mêmes apportent la gloire à Dieu. Il doit voir la gloire sur toi. Il doit avoir de la lumière de Christ sur ta vie pour que tu puisses régner dans cette vie. Dieu ne t'a pas appelé à être esclave, Dieu t'a appelé à régner. Jésus a dit, comme je vous ai dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Ça veut dire qu'à la nouvelle naissance, tu as senti cette paix. Dieu ne va pas la reprendre. Dieu ne va pas la reprendre parce qu'il ne donne pas comme le monde donne. Le monde donne et si tu ne payes pas, il reprend. Si tu ne fais pas ceci ou cela, il reprend. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu donne parfaitement, avec excellence. Dans Matthieu 11, il est dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Est-ce que tu es chargé? Est-ce que tu es fatigué par quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te limite? Tu sens que tu es bloqué quelque part? Jésus dit, « Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux, je suis humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » La Bible dit dans Ésaïe 53 que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Tu ne dois plus vivre dans la confusion. Tu ne dois plus vivre tous les jours de ta vie la tête basse. Aujourd'hui, c'est ta délivrance de la dépression. Aujourd'hui, c'est ta délivrance de ne pas voir derrière la fenêtre, de ne pas voir plus loin qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu veut t'amener à plus loin. Dieu veut t'amener à ce qu'il a écrit de toute éternité. Ce n'est pas avec son intellect qu'on reçoit les choses de Dieu. Ce n'est pas avec son intelligence qu'on peut comprendre Dieu. N'essaie pas de comprendre Dieu, mais reçois avec ton cœur. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est le désir de Dieu. Dans Hébreux, au chapitre 11, au chapitre 9 et au verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle, une délivrance éternelle, une libération, une guérison éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Jésus-Christ était dans le Saint, dans le séjour des morts. Et il avait prié, Seigneur, il ne voulait pas la mort. Il ne voulait pas la mort. Dans le jardin de Gethsémané, il ne voulait pas finir par la mort. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu est venu le ressusciter d'entre les morts et le ramener à la vie. Et la Bible dit que le même Esprit habite en toi. Le même Esprit va te ressusciter. Le même Esprit aujourd'hui va faire vivre ce qui était mort en toi. Le pasteur Joël a eu il y a quelques années une vision. Il était venu en 2005 à Noël alors qu'il habitait en Alberta. Et il était venu au Québec, il avait prêché un message qui s'appelait « Le Dieu de la francophonie ». Et le message, c'était que Dieu n'a pas oublié le Québec. Et Dieu n'a pas oublié cette région. Dieu ne vous a pas oublié. Et le pasteur a vu aussi en vision, il s'est vu un pied à Paris et un pied au Québec. Et je crois que ce qui a pu se passer entre Québécois et Français, les choses qui ont pu être vécues, Dieu va ramener une unité. Il est dit dans Ézéchiel qu'il y avait eu le schisme et le peuple de Dieu était séparé en deux. Et Dieu va dire à Ézéchiel, prends deux morceaux de bois et rejoins-les ensemble afin qu'ils ne fassent plus qu'un, afin qu'ils soient unis. Et je crois qu'il y a plusieurs Français, et ça a commencé, qui vont s'installer ici et qui vont travailler avec les Québécois pour voir la gloire de Dieu dans cette génération. Je crois que c'est le désir de Dieu. Dieu fait comme un signe pour cette nation, en disant, je ne vous ai pas oublié. Je viens vers vous. Vous n'êtes pas orphelin, mais je viens vers vous. Je crois que le Québec va vivre un temps très particulier. Un temps particulier d'une visitation de Dieu. Mais les gens se réjouissent toujours et Dieu dira, d'ailleurs Jésus va dire à un moment, est-ce que vous êtes cette génération dans laquelle ils vivaient? Vous êtes comme des enfants, ils vous ont chanté, ils ont joué de la musique, mais personne n'a dansé. Et cette génération aujourd'hui est comme ça. Les gens sont heureux d'entendre des prophéties, ils courent à droite, à gauche pour entendre une prophétie sur leur nation, sur leur vie. Mais souvent ils sont incrédules. Et si tu écoutes avec foi, tu pourras entrer dans ces choses. Entrer dans ce que Dieu t'appelle à faire, ça a un coût. Le coût de s'oublier soi-même. Le coût d'oublier ses erreurs. Le coût d'oublier ses échecs. Le coût d'oublier ses abus. Le coût d'oublier. Dieu te dit, oublie. Ne te souviens pas de ce qui t'a blessé. Mais souviens-toi de Jésus-Christ. Cet été, je vais aller évangéliser dans cette ville. Qui ira avec moi? Qui viendra annoncer l'évangile? Qui ne sera pas tiède? Vous savez ce que c'est d'être tiède? C'est ce que Jésus n'aime pas. Le tiède, ce n'est pas le froid. Le froid, il n'est pas à l'église. Mais le tiède, il est à l'église. Mais il ne vit pas ce que vit le bouillant. Le chrétien tiède, c'est celui qui est dans l'église, et qui n'accomplit pas la volonté de Dieu. C'est celui qui ne voit pas la gloire de Dieu dans sa vie. Et la Bible dit que Jésus va recracher ça. Il va recracher la tiédeur qui est en toi. Jésus veut utiliser un peuple bouillant pour lui. Pourquoi Dieu veut te libérer? Parce qu'il y a d'autres gens dehors. L'Église doit être forte pour aider les autres, pour libérer les autres. Et je vais prier, parce que certains, vous vivez des combats peut-être actuellement par rapport à ce message. Ne retenez rien. Ne retenez rien. Parce que Dieu va vous délivrer. On va prier ensemble. Commencez à regarder à Jésus. La Bible dit, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est une folie d'entendre quelqu'un prêcher et de croire qu'avec ses paroles, vous allez vivre un miracle. Et c'est pourtant ça que Dieu a voulu. Dieu a voulu que le peuple entende une parole et qu'en mettant sa foi en cette parole, ce peuple soit délivré. C'est le désir de Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu parce que Jésus va te toucher maintenant. La Bible dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, c'est-à-dire toi, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu t'a choisi. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Père, je prie maintenant pour ce peuple. Seigneur, merci. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit de rejet de quitter les vies. Tout esprit d'abandon de quitter les vies. J'ordonne à tout esprit impur de quitter la vie des gens dans cet endroit maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je proclame le sang de Jésus, le sang qui purifie, le sang qui délivre, le sang qui donne la vie. La Bible dit que par son sang, tu es devenu participant de la nature divine et que cette nature divine t'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la vie de l'esprit. Père, merci parce que tu viens libérer maintenant même. Tu viens délivrer. Je veux appeler ceux qui se sentent liés sur le devant. Maintenant. Ceux qui ont besoin d'une libération. Et si vous vous levez, croyez que vous allez la recevoir aujourd'hui même. Pas demain, s'il vous plaît. Pas demain. Mais aujourd'hui même. Vous savez, Dieu est un Dieu qui est tellement bon. Dieu, il est amoureux de vous. La Bible dit que les pensées de Dieu à ton égard sont plus nombreuses que le sable qui est au bord de la mer. Restez fixés les yeux sur lui, s'il vous plaît. La Bible dit que Dieu pense à toi. Dieu pense constamment à toi. Chaque jour, Dieu pense à toi. Chaque jour, Dieu se dit, je veux lui donner la paix. Je veux lui donner le bonheur. Je veux te donner la joie. Je veux te donner la paix. Chaque jour, Dieu pense à toi. Dieu t'a tellement aimé et il t'aime d'un amour éternel qu'il veut te délivrer aujourd'hui. Commencez là où vous êtes. à dire « Seigneur, je rejette l'orgueil, je rejette la dépression, je rejette la rancune, l'amertume. Je ne veux pas subir ce que les autres m'ont fait subir. Je dépose mes fardeaux à tes pieds. Je dépose ce qui me ronge, ce qui m'oppresse, et je déclare au nom de Jésus-Christ que je suis libre, je suis délivré par le sang de Jésus. Je suis libre en lui. Père, je prie pour eux. Merci parce que tu viens libérer. Tu viens libérer. Tu libères maintenant, Seigneur. La Bible dit que Dieu a voulu sauver les gens par la folie de la prédication. Ça veut dire que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Alors que vous êtes là maintenant, c'est ce que Dieu veut. Il va vous toucher maintenant. Il va passer dans les rangs. Il va venir vous toucher, vous délivrer. Dites, Seigneur, viens. Viens me toucher. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. C'est en esprit qu'on reçoit les choses de Dieu. Précieux. Jésus-Christ, j'ordonne aux chaînes de tomber dans les vies. J'ordonne aux chaînes de tomber dans les vies. Tout esprit impur, quitte les vies. Toute oppression, quitte les vies. Plus de cauchemars, plus d'angoisse, plus de dépression, plus de pensées vaines, au nom de Jésus. Choisis de louer Dieu, parce que lorsque tu loues le Seigneur, tu es libéré, tu es éclairé, tu es guéri. Adore Jésus-Christ, mets-toi à genoux si tu le désires, mais adore-le, parce qu'en le regardant lui, en l'adorant et en oubliant tes soucis, tu es délivré, tu es libéré, tu es restauré, tu es guéri. Nous t'adorons, Seigneur. y a plusieurs femmes ici même. Vous avez été liées pendant longtemps. Il y a au moins une femme ici, tu n'as pas de mari. Tu es seule à la maison. Et Dieu te dit aujourd'hui même, c'est ta délivrance. Tu n'es pas orpheline, mais Jésus est toujours avec toi. Vous êtes libérés aujourd'hui. Ce jour est un jour nouveau. En fonction de ta foi, un jour nouveau. Cet homme a dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Mais nous, la Bible dit que nous avons reçu un esprit de foi. Ce n'est pas une question de sentir quelque chose. C'est une question d'avoir foi, de déclarer sa foi. Déclarer votre foi en lui. Précieux Jésus-Christ. Saint-Esprit, s'il te plaît maintenant, passe et guéris. Viens et guéris. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Tu es affranchi et tu ne seras plus jamais esclave parce que Jésus-Christ a anéanti la puissance de la mort. Il a vaincu l'ennemi de ta vie. L'ennemi de ton âme a été vaincu à la croix. Et tu es libre aujourd'hui. Oh Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. De ce que tu as fait à la croix pour nous. Merci parce que tu nous as délivrés. Merci parce que ce peuple est un peuple de foi, est un peuple victorieux, est un peuple de liberté. Tu dis que tu nous as libérés pour la liberté. Seigneur, je proclame une libération totale ce matin. Merci pour la joie de Dieu. Merci pour la paix de Dieu. Merci parce que nous ne dirons plus que nous sommes abandonnés. Nous ne dirons plus que nous sommes rejetés. Mais nous confessons que tu nous aimes. Tu nous aimes. Tu nous aimes. Tu nous aimes d'un amour éternel. Tu nous aimes d'un amour éternel. Oh Seigneur, merci parce que nous ne sommes pas orphelins. Mais Seigneur, tu es venu vers nous. Tu habites en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Commencez à déclarer des choses. Commencez à crier la parole de Dieu. Déclarez la parole de Dieu. Déclarez votre foi maintenant. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Déclarez la parole. Déclarez que vous avez été affranchis. Déclarez que vous avez été libéré maintenant même. Dites, je suis libre. Je suis délivré.
Je suis libre.
Je marcherai avec Jésus tous les jours de ma vie. Oh, je serai un bon père, une bonne mère de famille. Je serai un bon exemple. Je gagnerai cette nation. Je gagnerai ma génération. Dieu va m'utiliser. Dieu va restaurer les gens au travers de ma vie. Parce que je sème ma vie. Oh, dites, Seigneur, je te donne ma vie. Prends ma vie. Seigneur, je refuse de vivre ma vie pour moi-même, pour moi tout seul. Mais je te donne ma vie, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Merci, parce que tu vas m'utiliser pour changer cette génération, pour changer ma famille, pour changer cette nation. Reçois la gloire, Seigneur, pour ce que tu as fait aujourd'hui. Je glorifie ton nom et j'exalte le roi des rois. Seigneur, merci, je prie que dans les prochaines heures, dans le prochain jour, tu viennes visiter tes enfants d'une manière particulière. Je prie, Seigneur, pour des moments plus intimes, plus profonds avec toi. Je prie, Père, pour une consécration nouvelle pour ces gens qui m'écoutent. Seigneur, merci. Merci. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. l'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.